Koydesh, Shabbos Koydesh, Yidel prepare for Shabbos Koydesh, joy is in the air for Shabbos Koydesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Koydesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Koydesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Harold Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette semaine, nous lirons la paracha de Lech Lecha, va pour toi. L'allumage des bougies, ce sera ce soir à 16h46 et demain, la fin du Shabbat, ce sera à partir de 17h53. Comme chaque semaine, nous allons évidemment souhaiter un refouage shlema à tous nos malades et en espérant que leur guérison soit proche. Et enfin, nous souhaitons un Shabbat Shalom à nos aînés et aux personnes isolées. Monsieur le grand rabbin, aujourd'hui, on fête un anniversaire. Vous savez de quoi il s'agit ?
Non, mais vous allez me le dire, Jean.
Oui, c'est le quatrième anniversaire, quatrième rentrée de cette émission. Nous avons commencé il y a 4 ans avec Claire Léra. Voilà, il fallait le dire. Ça fait quand même 4 ans qu'on est là tous les vendredis, pratiquement, pour parler de la paracha.
Bah, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, Jean, que ça vous puisse
aussi
continuer encore pendant de nombreuses années.
On l'espère. Alors, on va commencer évidemment par une activité qui va commencer la semaine prochaine, mais qui est très importante. Donc, on va en parler tout de suite avec vous, Monsieur le Grand Rabbin. C'est le Shalom mondial. Quel est le projet, le concept et quelles sont les activités qui sont menées à Strasbourg ?
Alors, Strasbourg s'illustre depuis maintenant un certain nombre d'années dans l'organisation du Shabbos Project, rappelons-le, donc un projet mondial à l'initiative du grand rabbin d'Afrique du Sud, le grand rabbin Warren Goldstein, qui a eu donc l'idée, il y a quelques années, maintenant il y a près de 10 ans, d'unir les Juifs du monde entier autour d'un même projet, d'un même concept, qui est celui d'un Shabbat dans l'année. Son objectif était de faire découvrir le principe du Shabbat, le concept du Shabbat, la dimension du Shabbat à des gens qui n'ont pas l'occasion d'être en contact avec d'autres personnes de la communauté ce jour-là, qui ne connaissent absolument rien au Shabbat, qui n'ont pas l'occasion de participer à des repas shabbatiques ou à des offices, et que chacun puisse en quelque sorte y trouver son compte. Il est très difficile pour des personnes qui ne sont pas familiers de la communauté ou d'un environnement spirituel d'immédiatement les intéresser avec un office. Donc vraiment l'objectif était, au travers d'autres activités qui tournent autour du Shabbat, et notamment l'organisation de repas communautaires, de permettre à toutes ces personnes un peu éloignées de la communauté de prendre goût à l'esprit du Shabbat. Parce que finalement, le Shabbat, pour ceux qui le vivent chaque semaine, qui le vivent de manière active, et pour certains de manière presque naturelle, parce qu'ils l'ont toujours vécu, c'est quelque chose de tout à fait délicieux. Je ne parle pas simplement du goût, des repas exceptionnels que nous consommons ce jour-là, mais il y a quelque chose dans l'atmosphère du Shabbat, dans cette capacité que nous avons à nous couper des problèmes de la semaine, cette capacité également à chanter véritablement et à s'installer dans un univers qui est différent, quelque chose de tout à fait délicieux. Et,
bien, c'est exclusivement pour les gens qui ne font pas Shabbat, ou c'est une sorte de hardout.
Alors, je pense qu'il y avait 2 objectifs. Effectivement, le premier était de permettre à des gens qui ne connaissent pas Shabbat de connaître Shabbat et de pouvoir peut-être commencer à se rapprocher un petit peu de la communauté. Le Shabbat est une porte d'entrée tout à fait extraordinaire. Mais bien sûr, il y a aussi un objectif de réunir tout le monde en même temps. C'est la raison pour laquelle il y a une date qui a été choisie. Cette date-là a évolué en fonction des années. Les premières années, elle était très très proche des fêtes de Tishri, ce qui a fait penser à ses organisateurs qu'il serait peut-être plus judicieux les années suivantes, étant donné que les fêtes de Tishri sont déjà là, très très chargées, d'attendre un petit peu après la fin des fêtes de Soukhot pour organiser ce Shabbat.
Cette année, le 11 tombe à vendredi.
Alors cette année, ça tombe très très bien, puisque effectivement, vous le rappelez Jean, le vendredi 11 est un jour férié, et étant donné que Shabbat commence très très tôt, et vous m'avez effrayé tout à l'heure en me rappelant que nous allumerons les bougies avant 5h ce soir, à 5h moins le quart, j'en étais effrayé, je me dis oh là là, c'est incroyable à quel point on va de nouveau connaître la course habituelle, traditionnelle des vendredis après-midi d'hiver, mais nous avons changé d'heure dans la nuit de samedi à dimanche dernier, et donc effectivement Shabbat tombe très tôt, et ce sera le cas, ce sera d'autant plus le cas la semaine prochaine où Shabbat rentrera encore plus tôt, et donc le fait que ce soit jour férié, c'est vrai, ça nous donne un petit coup de pouce pour organiser les festivités de ce Shabbos Project. Alors je disais que Strasbourg s'est toujours illustré parce qu'effectivement Strasbourg a été à la pointe. Alors Il faut rendre à, entre guillemets, à César, si je puis utiliser cette expression, ce qui lui appartient. Le Rav Smerla s'est beaucoup investi dans ce Shabbos Project lorsque ce projet a été lancé par le grand rabbin Warren Goldstein, avec toute une équipe, bien sûr, autour. Ce projet a évolué. On doit cette année, notamment, et je veux, même s'il déteste qu'on parle de lui, on en a déjà parlé dans l'émission La Communique, on doit beaucoup à Stéphane Geisman aussi, son investissement dans ce Shabbos Project, et surtout cette année où on a souhaité innover. Donc on avait un schéma, on va dire, assez classique de rendez-vous avec la Khalabek, on va tout de suite les dire, voilà, exactement. Sinon on va y passer l'émission, exactement, mais c'est important de le rappeler. Donc ce Shabbos Project, il démarre quelques jours avant, il démarre mercredi soir prochain, le 9 novembre, avec la traditionnelle soirée féminine de la Khalabek, donc cuisson et préparation des traditionnelles Khalot de Shabbat, mais cette fois-ci, un concept un petit peu inédit, avec atelier d'art de la table qui sera proposé. Donc c'est vraiment à la fois donc le plaisir de confectionner ces Khalot, mais aussi avec un côté très très ludique de l'art de la table. On sait que c'est l'atelier art de la table, quelque chose qui est très en vogue en ce moment, et donc ça permettra de découvrir quelque chose de, voilà, comme je le disais, de tout à fait inédit. C'est ce concept qui, voilà, que l'on souhaitait instaurer pour ce Shabbat, mettre en avant pour redonner un second souffle peut-être à ce Shabbat Project. Le lendemain,
jeudi soir,
soirée consacrée aux jeunes. Alors, deux soirées. Une soirée pizza party, là aussi, très originale. C'est une nouveauté. On aura pour cette soirée un pizzaiolo professionnel qui viendra donc apprendre aux jeunes à confectionner de véritables pizzas avec un vrai four à pizza. Ça se passe à la communauté et c'est à destination des 12-17 ans pour un tarif qui est presque symbolique de 3 euros. Donc, très, très sympathique. Et bien sûr, un grand caout, hein, puisque c'est un incontournable. Le jeu du caout autour du thème du Shabbat. Donc, vous voyez bien qu'on reste dans l'esprit du Shabbat.
Deuxième soirée pour
les plus grands, 18-32, une soirée burger bar, avec également la présence d'Arom Evans, la présence d'Isaac Ben Sadon, qui proposera aussi de délicieux cocktails. Et donc, on invite les jeunes, cette fois-ci, donc les étudiants et les jeunes actifs, 18-32, à nous rejoindre en salle Bloom pour une soirée à thème, toujours autour, bien sûr, du Shabbat. Et vraiment dans la volonté d'impliquer absolument toute la jeunesse de Strasbourg dans ce projet.
Vendredi, il y a un office commun.
Alors il est incontournable, vraiment celui-là, je vous invite toutes et tous à y participer, parce que chaque année, on se redit la même chose, mais le fait d'avoir vraiment l'ensemble de la communauté réunie dans la grande synagogue, de l'avoir vraiment pleine à craquer pour chanter avec une soirée qui réunit toutes les sensibilités, aussi bien au niveau des offices, Ashkenaz Sepharad, donc la Kabbalah Shabbat, Karl Bar par Nathan Wolf, et Maariv par Yoel Ben Simon. Donc vraiment, rejoignez-nous à la Grande Synagogue. Repas shabbatique à l'issue de cet office.
Le vendredi soir. Étudiants.
Alors, à la fois pour les étudiants salle Bloom et à la fois pour toute la communauté, tout public, à la salle Hirschler, pour les étudiants, présence du rabbin Mendy Samama, on parlera bien sûr Shabbat et business, et pour donc le grand public, nous avons un invité d'exception, en la personne du professeur Alain Toledano, pour ceux qui le connaissent, il nous parlera, donc cancérologue, directeur du centre de cancérologie Hartmann, président également de l'Institut Raphaël. Il est extrêmement brillant, il a aussi beaucoup écrit de commentaires sur les textes bibliques, et donc il nous parlera de quelle éthique pour la médecine de demain. Ça se passera salle Hirschler.
Vendredi soir pour les adultes et les enfants.
N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire, je le dis toujours, les places sont limitées.
Alors le 12, c'est-à-dire Shabbat même, très tôt le matin.
Très tôt le matin pour les plus courageux, les bakashotes, donc à 6h30, pour les courageux, parce qu'il faut se lever de bonne heure. Mais c'est une tradition maintenant à Strasbourg, et cette fois-ci elles auront lieu à Rambam. C'est vrai qu'elles se déroulaient très régulièrement à Chafetz Chaim, à la rue Schweigoser. Cette fois-ci, elles auront lieu à Rambam, donc par le Rav Yitzhak Ben David et notre ami Robert Fedida. Et donc là aussi, bien sûr, c'est à Leilou Nishmat Rabbi Avram à Saraf. Et on invite bien sûr tous les plus courageux à venir participer à ces bakashot qui mettent là aussi dans l'ambiance du Shabbat, avec ces chants matinaux qui nous introduisent l'office du Shabbat.
On vous y verra.
On m'y verra, j'espère en tout cas.
Pour le kidouche.
Non, peut-être pas forcément pour le kidouche. Non. J'espère en tout cas, vous me mettez la pression là, Jean, mais j'espère au moins pouvoir accrocher une partie de ces bacs à shots.
Alors, le 12, toujours.
Voilà, j'ai pas d'excuse, ça se passe à Rambam, c'est plus près de chez moi que Rafet Reim, donc je n'ai pas d'excuse pour être absent.
De toute façon, on va vérifier. Ouais. Toujours Shabbat, le 12 décembre, 12 novembre, excusez-moi.
Alors, le Shabbat prochain, donc 12 novembre, là aussi, traditionnel repas de midi pour les étudiants et les jeunes. C'est vrai que c'est une formule qui fonctionne bien. Et donc, ce repas aura lieu en salle Bloom. Mmh. Et là aussi, donc, nous invitons bien sûr tous les étudiants, les jeunes actifs à venir bien participer à ce repas. Vraiment, c'est un Shabbat que nous avons voulu le plus complet possible. Nous avons beaucoup d'étudiants à Strasbourg qui sont donc logés dans différentes familles le Shabbat, ou en tout cas invités pour les repas de Shabbat. Et donc là, on leur propose pour ce Shabbat de se retrouver tous ensemble
en salle Bloom. C'est relativement...
Tout à fait. Un prix donc, de 10€ pour les étudiants, 25€ pour les jeunes actifs. Vraiment, nous faisons attention systématiquement à trouver des moyens de subventionner ces repas pour les rendre le plus attractifs possible.
Et le point d'orgue, c'est samedi, enfin le point d'orgue, la fin de ce...
Le point d'orgue, Jean, c'est une expression que vous avez raison d'utiliser parce que ça viendra vraiment clôturer de manière là aussi, à la fois festive mais vraiment tout à fait exceptionnelle, ce très très riche programme du Shabbos Project.
C'est dimanche
Abdallah
soir.
Candlelight, non pas dimanche soir mais bien Motsai Shabbat, c'est samedi soir, donc le 12 novembre à 20h, étant donné que Shabbat...
Oui, c'est
termine très très tôt, c'est l'avantage des Shabbatot d'hiver. Nous nous retrouverons à 20h dans la grande synagogue de la paix pour une magnifique Avdala Candlelight. Alors je n'en dis pas plus, c'est vraiment une surprise autour de deux chanteurs que nous connaissons bien dans la communauté, Avraham David, notre ami Avi Wayon, hein, je suis désolé, pour moi Avi ça reste Avi, et notre Chazan David Gers, notre Chazan de la grande synagogue, vraiment tout juste sorti des Shloshim suite au décès de son frère. Et donc ce sera vraiment l'occasion de pouvoir se réjouir tous ensemble et clôturer comme il se doit ce magnifique programme du Shabbos Project. Donc là aussi on vous attend très très nombreux et vous verrez que le concept, même si donc, nous connaissons bien nos deux chanteurs talentueux, le concept de cette année est tout à fait inédit.
Tout ça dans le Shabbat Shalom ou sur le site de la communauté, vous retrouverez toutes les adresses, les dates et les horaires et les prix évidemment. On parle un peu de la paracha ?
On parle un peu, j'ai l'impression qu'on a mangé déjà la moitié de notre temps.
Oui, à peu près.
Lucas est dépité dans son studio, mais on va quand même parler un petit peu de la paracha, bien sûr.
L'Ech Lecha et le résumé.
Alors, on a du pain sur la planche, Jean, on va aller très très vite pour le résumé, parce que l'Ech Lecha est une paracha très très longue, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité, puisque nous voyons l'émergence d'Avraham, personnage d'Abraham, donc c'est le début de l'histoire du peuple d'Israël qui est en train de se mettre en route avec l'émergence d'Abraham, et la première épreuve qui lui est imposée par Dieu, celle de quitter sa famille, de s'arracher en quelque sorte à un lieu dans lequel Abraham n'a plus vraiment de possibilité d'évoluer s'il veut devenir le Abraham que l'on va connaître par la suite, et donc départ pour la terre de Canaan. Donc c'est la première des 10 épreuves qui seront imposées à Abraham, et c'est là-dessus que démarre notre paracha. Vous remarquerez d'ailleurs, Jean, qu'on ne sait pas grand-chose de l'histoire d'Abraham avant cette épreuve. Donc, la Torah a volontairement passé sous silence les premières années de la vie d'Abraham. Abraham ne va donc pas s'arrêter à ce périple qui le conduit en Eretz Canaan, en terre de Canaan. Il va devoir fuir très rapidement la terre de Canaan, à peine arrivé, suite à une famine terrible, pour se rendre en Égypte. Puis, retour en terre de Canaan, donc c'est une paracha très très mouvementée. Il y aura par la suite la séparation avec Lot, qui est son fidèle disciple, son neveu, mais à la fois son fidèle disciple, donc une épreuve aussi supplémentaire pour Abraham, puisqu'il y a séparation avec celui auquel il est très très attaché, qui a été l'un de ses élèves. Un passage sur lequel on ne s'arrêtera pas aujourd'hui, très énigmatique, mais qui occupe une place importante, il est vrai, une place presque centrale dans notre paracha, c'est celui de la guerre des quatre rois contre les cinq rois, qui sera remportée par les quatre rois, donc une guerre entre les grandes puissances de l'époque. Et puis, bien sûr, ce qui est aussi au centre de notre paracha, ce sont les multiples alliances, et notamment donc, l'alliance des morceaux, le fameux Brit Ben Abetarim, au cours duquel, eh bien, Abraham, donc se verra annoncer la promesse hein, de la terre d'Israël, mais également, et c'est quelque chose qui, on va dire, va un petit peu le crisper, l'annonce d'une promesse qui ira de pair avec un esclavage, un passage obligatoire pour sa descendance en Égypte. On en parlera. Et la fin de la paracha qui nous parlera de la naissance d'Ishmaël. Donc vous le savez, Abraham et Sarah qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et son épouse Sarah qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est donc Agar, la servante de Sarah, qui sera donnée pour épouse à Abraham. Elle aura avec Abraham un fils, ce Ishmael. Fils s'appelle Ishmaël. La fin de la paracha donc, nous raconte cet épisode, elle nous parle de la naissance d'Ishmaël et elle nous parle de la transformation du nom d'Abraham et de Sarah et de la Brit Mila qui changera littéralement le destin d'Abraham et Sarah, en tout cas en ce qui concerne leur postérité. Et c'est donc sur cette très très belle mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision, que s'achève notre paracha de Lech Lecha.
J'espère qu'on pourra parler de tout. Il y a quand même une question qui s'impose dans le texte, quand on dit le texte, et les commentateurs le font ressentir. Dieu sait pertinemment que tout ce que lui, il dira à Abraham, Abraham obéira et fera ce que Dieu lui dira. Pourquoi alors avoir imposé des épreuves si c'est que de toute façon il va lui faire tout ce qu'il veut ?
Alors, votre question, Jean, elle est à la fois très très pertinente, mais en réalité, c'est une question qu'on peut se poser de manière beaucoup plus générale dans, j'ai envie de dire, presque dans toute l'histoire, dans toutes les histoires qui nous sont relatées par la Torah. C'est la question du libre arbitre, finalement. Quelle est la place de l'homme ? Quelle est la place du choix de l'homme dans un monde dans lequel, a priori, Dieu est omnipotent ?
Là,
Dieu sait exactement ce qu'il va devenir.
On dit que Dieu savait.
Alors Dieu sait, bien sûr, Dieu sait au moment où il donne à Abraham qu'il aura la capacité à surmonter les épreuves. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on dit et qui ne sont pas de vains mots. Lorsqu'une personne est confrontée à une difficulté, tous les jours, nous avons autour de nous des personnes confrontées à des difficultés. Nous sommes nous-mêmes, dans notre propre vie, confrontés à des difficultés. Or, nous tenons pour principe que ces difficultés, eh bien, nous sommes à même de les surmonter, sans quoi Dieu ne nous les enverrait pas. Et au contraire, plus une difficulté est difficile, plus une épreuve est difficile, plus, a priori, la personne qui reçoit cette épreuve est en capacité de la surmonter,
c'est
à l'effort pour
c'est
la surmonter.
C'est quoi, de la surmonter ou de l'éviter ?
Alors effectivement, il y a déjà, et ça c'est on va dire une grande ligne de pensée chez nos maîtres, le fait que la personne, même si Dieu sait ce qui va se passer, la personne elle ne le sait pas. Donc il y a déjà dans l'idée le fait que la personne qui se voit confier cette épreuve, elle se voit confrontée à un véritable choix. Elle a la possibilité de choisir une voie, comme d'en choisir une autre, de réunir finalement toutes les forces qui se trouvent à l'intérieur d'elle pour se confronter à cette épreuve. Au contraire, eh bien, de choisir la voie de la facilité qui serait peut-être celle du découragement ou celle de la fuite de cette épreuve. Abraham va être en capacité d'affronter cette épreuve. Il y a aussi l'exemplarité. C'est très très important, c'est un thème sur lequel on va beaucoup revenir. Il a été traité toute la semaine de manière extrêmement brillante par le rabbin Ariel Ribibo au Merkaz. Ouais. C'est le principe de Maaseh Avot Siman Labanim, les actions des pères qui sont des balises pour les enfants. Or ce principe-là,
là,
eh bien, il prend sans doute sa source dans notre paracha. Et Abraham, en tant que père fondateur du peuple d'Israël, eh bien, a un rôle à jouer dans les actions qui vont être les siennes. Et donc, même si on peut imaginer que finalement ces épreuves n'ont que peu de sens, dans la mesure où Dieu sait exactement ce qui va se passer, elles servent de balises, elles servent de repères pour les générations suivantes, et donc elles sont nécessaires. Il est très très important que ces épreuves-là soient traversées par Abraham et qu'elles puissent s'inscrire dans l'histoire de l'humanité, et j'ai envie de dire de manière plus précise par la suite, dans l'histoire, comme référence dans l'histoire du peuple d'Israël.
Alors, on va passer, excusez-moi, parce qu'on n'a vraiment pas le temps, et je voudrais donc évoquer les thèmes. Abraham part en Égypte à cause de la famine et demande à sa femme de dire que c'est sa sœur. Est-ce qu'on peut comprendre qu'Abraham a demandé à sa femme de mentir aux Égyptiens ?
Alors ça vous tracasse, ça, j'ai vu cette question, effectivement, parce qu'on s'imagine toujours, et à juste titre, hein, bien sûr, que les grands personnages de notre histoire étaient d'une intégrité morale parfaite, d'une honnêteté également intellectuelle parfaite. Comment Abraham peut demander à sa femme de mentir ? Alors ce qu'il faut savoir, Jean, c'est que ce n'est pas la première fois que nous voyons de grands personnages de la Torah s'arranger un petit peu avec la vérité. Bien sûr, le premier auquel on pense, c'est Yaakov, lorsqu'il doit, sur les conseils de sa mère, et presque plus que les conseils, les directives même de sa mère, nous y reviendrons dans quelques semaines, eh bien, mentir à son père en se faisant passer pour Essav. Bien sûr, ça a suscité beaucoup de questions sur l'intégrité morale de Yaakov, qui, rappelons-le, est appelé en plus Ish Ha-Emet, donc l'homme de vérité. Il incarne cette qualité de la vérité, et on a du mal à la mettre en perspective avec, a priori, ce qui est un mensonge. Ce qui nous fait dire, et ce qui a fait dire à un certain nombre de nos maîtres, que dans certaines circonstances et dans certains moments de l'histoire, il a fallu un petit peu, non pas mentir, mais s'arranger un petit peu avec cette vérité pour permettre à cette histoire d'émerger. Ça peut être le cas ici. Rappelons quand même ce que disent nos maîtres, à savoir que dans tous les cas, et c'est aussi une lecture qu'on pourra avoir, on le verra dans l'histoire, dans la paracha de Toldot, et ce mensonge, ou en tout cas cet arrangement de la vérité que devra avoir Yaakov lorsqu'il se présentera devant son père, on peut en avoir une deuxième lecture où en réalité, eh bien, dans la manière dont les choses sont dites, dans la manière dont on les présente, eh bien, peuvent faire penser qu'en réalité on ne ment pas véritablement. Et effectivement, nos maîtres nous font remarquer qu'appeler son proche ma sœur, eh bien, c'était quelque chose de tout à fait, on va dire, accepté, de tout à fait normal. Et donc, Avraham, en réalité, s'est un petit peu arrangé avec la vérité, mais il peut se cacher derrière le fait que d'appeler celle qui était sa nièce, sa sœur, eh bien, est en réalité tout à fait convenu.
Alors, Avraham revient en Israël, il se fait chercher d'Égypte en l'occurrence, par les mêmes chemins. Et on aurait pu croire, en parlant de cette histoire, que c'est en fait un retour en arrière, que c'est un échec. Et finalement, nos maîtres nous disent que c'est le contraire. Et il y a une chose qui est intéressante à dire, c'est que Avraham a pris le même chemin qu'à l'aller. Il s'est arrêté aux mêmes auberges qu'il s'est arrêté. C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors, c'est surtout extrêmement surprenant. Cela aussi, le rabbin Rebibo nous en a longuement parlé cette semaine. C'est avec beaucoup de profondeur qu'il a expliqué la nécessité pour Abraham d'emprunter ce chemin. Il fallait qu'Abraham descende de Shrem, que de Shrem il passe entre Bethel et Haï, et puis qu'il se rende jusqu'à Hebron. Il y avait dans cet itinéraire quelque chose, là aussi, de très très important, comme s'il venait baliser en quelque sorte la route de ses enfants et poser à chacun de ces endroits ce qui allait permettre au futur peuple d'Israël d'émerger. Et donc il y a quelque chose de tout à fait anormal, puisque Abraham a dû malgré lui descendre en Égypte, donc là il va beaucoup plus au sud, et lorsqu'il revient, eh bien, plutôt que de se rendre directement à sa destination finale, il revient exactement au point de départ. Ouais. Donc c'est un détour énorme, parce qu'Abraham va remonter, il va finalement passer à côté de l'endroit dans lequel il va finalement s'installer, donc il passe à côté de sa destination finale pour revenir au point de départ. Et c'est cela qui est surprenant et que vous avez parfaitement raison, Jean, de mettre en exergue. Alors nous avons les deux réponses de Rashi qui nous dit que c'est en réalité par règle de bienséance qu'Abraham s'est arrêté aux mêmes endroits que ceux qu'il avait empruntés en se rendant en Égypte, parce qu'à partir du moment où on a été bien reçu quelque part, eh bien, il n'y a pas de raison de changer d'endroit. C'est aussi une manière finalement de rendre un petit peu hommage à ceux qui nous ont reçus dans les meilleures conditions. Deuxième réponse de Rashi, c'est-à-dire qu'Abraham avait des dettes et qu'il s'est arrêté dans ces endroits pour payer ses dettes parce qu'il arrivait très très pauvre. Et moi, je vous propose très rapidement donc une autre idée qui est proposée par le Rav Valkin, qui nous dit que la descente d'Abraham en Égypte a occasionné un très très grand Chilul Hashem. C'était une profanation du nom de Dieu, dans le sens où Abraham, fraîchement arrivé en Eretz Kenaan, alors qu'il avait fait l'effort de quitter sa famille, alors qu'il avait fait l'effort de quitter ceux qu'il aimait, et on sait ce que ça représentait comme sacrifice pour Abraham, eh bien s'est vu finalement très très mal accueilli par Dieu, puisqu'à peine arrivé dans cette terre de Canaan, il doit déjà partir. Abraham, lui, qui se battait au quotidien pour faire grandir le nom de Dieu, pour partager cette idée du monothéisme avec le plus grand nombre de personnes, eh bien cela a occasionné, d'après le Rav Valkin, un très très grand Chilul Hashem, une profanation de nom de Dieu. Que vont dire les gens lorsqu'ils vont voir qu'Abraham a été traité de cette manière et qu'il a été en quelque sorte chassé en Égypte? Eh bien, le fait pour Abraham de revenir d'Égypte enrichi était une occasion, lorsqu'il est repassé par les mêmes endroits que ceux justement qui avaient assisté à sa déchéance, de dire, eh bien, vous voyez, finalement, tout était pour le bien. À aucun moment Dieu ne m'a abandonné. S'il m'a envoyé en Égypte, c'est au contraire pour me permettre d'en revenir encore plus puissant, c'est pour me permettre d'en revenir grandi. Et le fait de repasser dans tous ces endroits, devant toutes ces personnes qui avaient assisté à sa déchéance, ouais, et de montrer l'évolution qui avait été la sienne, eh bien, était une manière, finalement, de rehausser un petit peu l'honneur de Dieu et de chasser ce Chilul Hashem, cette profanation du nom de Dieu qui aurait pu exister lorsqu'Abraham s'est rendu en Égypte.
Alors j'ai encore 3 thèmes et on a 7 minutes, donc vous voyez comment on peut avancer vite. Je voudrais qu'on parle d'abord, on va passer l'histoire de Lot, elle est importante et trop longue à développer pour en parler maintenant. Je voudrais aussi vous demander pourquoi Dieu renouvelle régulièrement l'alliance avec les patriarches. On le voit avec Abraham, on le voit avec Israël, on le voit avec Jacob. 3-4 fois dans la paracha, on dit qu'on renouvelle, qu'on crée une alliance. C'est quoi? Une fois, ça ne suffit pas?
Alors, la notion de brite, d'alliance, est fondamentale. Elle l'est dans notre paracha, puisque c'est précisément dans notre paracha qu'elle va intervenir vraiment à plusieurs niveaux. L'apothéose, en quelque sorte, étant le dernier passage de notre paracha avec l'alliance de la Brit Mila, celle qui se fait véritablement dans la chair. Non pas l'alliance des morceaux, des morceaux, bien sûr, elle est centrale, elle est déterminante, puisque c'est elle qui va occasionner une promesse sur l'avenir. C'est une alliance qui n'engage pas simplement Avraham, mais qui engage toute sa descendance, puisque nous l'avons rappelé, cette alliance engage également le passage nécessaire en Égypte, et ce qui va un petit peu effrayer Avraham. Pour répondre rapidement à votre question, Jean, je dirais que chacune de ces alliances, lorsqu'on les analyse, intervient à un moment tout à fait particulier de l'histoire. Voilà, ces alliances n'arrivent jamais par hasard. Lorsque Dieu décide d'engager une alliance, au contraire de la ratifier, de la renouveler, eh bien, c'est systématiquement qu'il s'est passé quelque chose de nouveau dans la vie du clan Israël telle qu'elle est en train de se mettre en place. La première ici intervient notamment par rapport après la séparation d'Abraham de Lot, qui est un tournant dans l'histoire. C'est un tournant parce que Lot est son fidèle disciple. Lot est a priori celui qui pourrait donner à Abraham cette postérité qu'Abraham n'a pas encore à ce moment-là. Et pourtant, eh bien, Lot va se séparer. Donc il y a un tournant finalement de quelqu'un qui a été nourri, j'ai envie de dire, à la même Torah, mais qui par manque de midot, par manque donc de certaines qualités humaines, va emprunter une autre voie. Donc c'est systématiquement au moment d'un tournant de l'histoire que l'alliance a besoin d'être passé, renouvelé, à la fois pour renforcer Abraham. Abraham, c'est une déception, c'est un moment terrible qu'il vit, cette rupture avec Lot. Il a besoin d'être relevé à ce moment-là par Akadosh Baruch Hu. Il a besoin que cette alliance puisse véritablement le rassurer et le renforcer sur le chemin qui est le sien et dans lequel il a décidé de s'engager coûte que coûte.
Comme quoi les midot ne sont pas héréditaires.
Les midot ne sont pas héréditaires, ça c'est un très très grand thème, un très grand sujet. Je ne suis pas si sûr que les midot ne soient pas héréditaires, que ces qualités humaines, je pense que d'une certaine manière finalement elles peuvent, en tout cas s'hériter, elles peuvent se transmettre, mais ce qui est pour autant certain, c'est qu'elles nécessitent un travail permanent. Voilà. D'accord. Si elles peuvent en tout cas s'hériter sur le fond, pour pouvoir être conservées et pour que l'on puisse en tout cas les entretenir et puis les transmettre à notre tour, il est certain qu'elles nécessitent un travail sur soi permanent.
Alors, on va passer, je suis désolé, on voulait en parler, mais on va passer sur le cas de Sarah qui décide de donner sa servante Agar, qui est quand même la fille de Pharaon. Il faut le signaler, c'est pas n'importe qui. On va passer sur le nom de El Shaddai et on va arriver sur le changement. Dieu dit que Abraham va devenir Abraham, Sarah qui va devenir Sarah. Le allez-nous, quand il y a des gens qui sont dans une situation vraiment désespérée, on décide de changer ou d'ajouter le nom, ce qui arrive quand les gens sont vraiment dans un état sérieux. Comment le fait de changer de nom peut changer un destin, peut intervenir pour changer le cours des choses, c'est incroyable.
Il y a la réponse, elle est, j'ai envie de dire, Jean, presque dans votre question. Vous avez parlé de changement de nom, changement de destin, effectivement. Nous ne parlons plus de la même personne, nous ne parlons plus
juste
de la même entité. Le changement de nom, alors on le voit pour le cas d'Abraham, puisque ce n'est pas n'importe quelle lettre qui est rajoutée dans le nom d'Abraham, la lettre E qui est une lettre extrêmement symbolique. C'est dommage vraiment qu'on soit systématiquement pressé par le temps, qu'on n'ait pas plus la possibilité de développer ce thème. Mais effectivement, il y a dans le changement de nom d'une personne, et a fortiori lorsqu'elle va recevoir une nouvelle dimension divine à l'intérieur de son nom, bien quelque chose qui est de nature à tout simplement métamorphoser le destin, puisqu'on ne parle plus plus de la même personne. Donc à partir du moment où nous ne parlons plus de la même personne, eh bien nous parlons d'un autre destin, nous parlons d'un autre futur qui est possible, d'où cette tradition que
juste
nous avons.
Juste en changeant de nom.
Voilà. Exactement, c'est une... Alors, voilà, malheureusement, on aimerait bien que ce soit magique et qu'à chaque fois que l'on, l'on change le nom d'une personne dont le, a priori, dont la vie était amenée à s'interrompre dans les prochains temps, et bien que cela puisse fonctionner systématiquement, voilà, cela ne fonctionne pas, mais en tout cas, c'est une possibilité d'un futur nouveau. Voilà, cela fait bien sûr intervenir beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas, mais le fait effectivement de donner un nouveau nom, c'est tout simplement donner une nouvelle identité à la personne, et donc c'est créer un nouveau futur possible. Et c'est de cette manière que fonctionne le principe du Shinui Hashem.
Je vais demander 3 minutes à Lucas. Comme dirait Lucas, je vais vous céder la parole, comme le fait Lucas à la présentation de l'émission. Il dit « je cède la parole ». On va vous céder la parole, monsieur le grand rabbin, pour parler d'un sujet important. Je sais que 2 minutes, ça va vous suffire, mais essayez de faire relever le défi. Parlez-nous de la Brit Mila au niveau pratique et au niveau spirituel. 2 minutes.
Alors, parler de la Brit Mila au niveau pratique et à la fois spirituel de la Brit Mila en 2 minutes, c'est une mission totalement impossible. Mais je dirais que tout simplement, eh bien, c'est le recoupement des deux. Voilà, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Vous m'avez parlé de pratique, vous m'avez parlé de physique et de spirituel. Ouais. Nous sommes véritablement dans le recoupement des deux. Vous savez, il y a une célèbre discussion entre Rabbi Akiva et Tournus Rufus. Et Tournus Rufus demanda à Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est plus beau d'après toi ? Est-ce que ce sont les actions de Dieu ou les actions de l'homme ? Et Rabbi Akiva, de manière extrêmement surprenante, lui dit eh bien, ce sont les actions de l'homme. Et effectivement, il lui dit regarde ces pains, regarde ces gâteaux, ne sont-ils pas plus beaux, ne sont-ils pas plus esthétiques que ces épis de blé ? Et Tournus Rufus demande à Rabbi Akiva, mais si Dieu eh bien, souhaitait véritablement justement ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus accompli, eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé l'homme directement circoncis ? Pourquoi demander à l'homme de se circoncire et le créer avec ce supplément de peau ? Et Rabbi Akiva de répondre que lorsque Dieu crée ce monde, il le crée dans la volonté de lui donner la possibilité de se parfaire. Et que dans cette mitzvah qui est confiée à l'homme, c'est justement l'inclure dans les mitzvot. Mmh. C'est lui donner à lui la possibilité de manifester cet attachement et de manifester sa volonté de participer au projet de la création. Eh bien, la mitzvah de la Brit Mila, un petit peu, eh bien, c'est justement cette rencontre. Et c'est la possibilité pour l'homme de marquer justement dans sa chair cet attachement à Dieu. La particularité bien sûr de cette mitzvah, c'est qu'elle intervient très très tôt dans la vie d'un homme, puisqu'à peine à 8 jours, même si Abraham lui avait 99 ans, que son fils Ishmael avait 13 ans, nous le savons, depuis que cette mitzvah a été donnée, elle a été donnée à 8 jours. Le premier qui recevra cette Brit Mila à 8 jours sera Yitzhak. Et il y a bien sûr à la fois dans cette dimension du 8, qui est une dimension qui est la dimension d'un chiffre qui dépasse les lois de la nature, justement une dimension extrêmement spirituelle, mais à la fois aussi le fait que cela intervienne très très tôt dans la vie d'un homme, la volonté de marquer cette soumission et cette envie de faire partie du projet divin avant même finalement d'être en mesure de pouvoir réfléchir et produire une pensée.
C'est vraiment l'alliance parfaite.
Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire une alliance parfaite et qui, rappelons-le, je le dis toujours, a été pour Abraham, au-delà, parce que nous on y voit toujours finalement une épreuve physique, de se dire 99 ans, affaibli, de devoir commettre un acte chirurgical sans les moyens bien sûr que nous possédons aujourd'hui, ni anesthésie ni autre, bien sûr au-delà de la douleur physique, je pense qu'il n'était vraiment pas le premier souci d'Abraham, c'était surtout le fait de marquer dans sa chair une différence avec ceux qui jusqu'à présent, finalement puisque Abraham avait une dimension très universelle, eh bien se trouvaient autour de lui et se dire comment jouer pleinement maintenant mon rôle, qui est celui d'Abraham, qui est celui du porteur de cette voie du monothéisme, tout en restant finalement à la portée des autres. C'est très très important, sans donner la sensation finalement de me couper du monde. C'est-à-dire assumer finalement ce rôle tout à fait singulier qui est le mien, mais tout en continuant à exister et à faire porter haut et fort finalement ce message au sein des nations. Je crois que c'est tout l'enjeu ici de la Brit Mila, c'est tout le sens finalement de cette épreuve également. Qu'Abraham a finalement très très brillamment réussi.
Merci Monsieur Grandvin, Shabbat Shalom, merci à Lucas pour la gestion technique et pour les quelques minutes qu'il nous a offertes. Shabbat Shalom à vous tous, rendez-vous la semaine prochaine.
Shabbos Kodesh, you did not prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.